À déroulement du livre aujourd'hui, nous vous présentons la première de quatre émissions d'enseignement animées par le frère Louis Saint-Mars, Capucin. La série s'intitule « Voir et faire voir l'enfant de Bethléem ».
Je suis heureux de vous retrouver pour cette méditation sur le mystère de Noël avec le regard émerveillé de François d'Assise. Cette méditation qui va nous accompagner tout au long de cet Avent. Pour soutenir cette méditation, je vais faire référence à un récit de la vie de saint François qui nous est rapporté par son premier biographe, le frère Thomas de Celano. Un texte qu'il a rédigé entre 1228 et 1230, à l'occasion de la canonisation de saint François. Ce récit n'est pas un conte de Noël, ni un traité théologique sur la nativité. C'est le récit d'un événement, voulu et organisé soigneusement par saint François dans le petit bourg de Greccio. Et nous célébrons cette année le 800e anniversaire de cet événement. C'est aussi un événement qui a illuminé les dernières années de la vie de saint François et qui a été pour lui comme une nouvelle naissance après une période sombre marquée par le doute sur lui-même et sur sa fraternité. Cet événement de Greccio auquel nous allons faire référence a profondément marqué l'imaginaire chrétien au point où, traditionnellement, nous attribuons à saint François l'invention de la crèche. Mais nous verrons au cours de cette méditation que non seulement ce n'est pas le cas, mais que l'intention de François en cette nuit de Noël 1223 est beaucoup plus profonde. Cette nuit-là, François souhaite que la célébration de la messe de minuit soit dans une grotte, avec la présence d'un bœuf, d'un âne et d'une mangeoire. Cette messe de minuit, célébrée depuis des siècles par les chrétiens, c'est cette nuit-là, François devint enfant avec l'enfant. Mais pourquoi a-t-il un tel projet? Il s'agit pour saint François d'une autre manière de continuer à affirmer ce qui est essentiel pour lui, ce qui, pour lui, est au cœur de l'Évangile, l'incarnation. Et même, plus précisément, la manière de l'incarnation. Et donc, au cours de cette méditation, nous tenterons de répondre à cette question : quel est le message du pauvre d'Assise à Noël ? Que contemple-t-il en cette nuit qui brille parmi toutes les nuits ? Mais disons d'abord un mot sur qui est François et sur son amour pour la fête de la Nativité. François d'Assise, vous le connaissez, est probablement un des saints plus connus de l'histoire. Son long parcours de conversion, son expérience spirituelle d'imitation et de configuration au Christ, qu'il aime de tout son cœur, ont inspiré des générations d'hommes et de femmes depuis plus de 800 ans. Il est connu comme un amoureux du Christ, un ami des pauvres et des humbles, le frère universel, le frère de toute créature. D'ailleurs, dans l'encyclique Laudate aussi, le pape François décrit ainsi saint François. Il aimait et était aimé pour sa joie, pour son généreux engagement et pour son cœur universel. C'était un mystique et un pèlerin qui vivait avec simplicité et dans une merveilleuse harmonie avec Dieu, avec les autres, avec la nature et avec lui-même. En lui, on voit jusqu'à quel point sont inséparables la préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres, l'engagement pour la société et la paix intérieure. C'est une description que nous retrouvons dans l'encyclique Laudate aussi. Francesco, puisque c'est son nom italien, naît à Assise en 1181 ou 1182, on n'est pas tout à fait certain, dans une famille bourgeoise. Il est le fils de Pietro, dit Bernardone, un riche et ambitieux drapier et propriétaire terrien qui fait fortune dans le commerce international de tissus, commerce par ailleurs florissant dans le centre de l'Italie à cette époque. Le père de François aimait particulièrement la France et y avait beaucoup voyagé. Aussi, son fils étant né pendant un de ses nombreux voyages, il déclare qu'il s'appellera Francesco, c'est-à-dire le petit français. François fréquente l'école de la cathédrale San Giorgio à Assise. Vers l'âge de 13 ans, son éducation de base est complétée. Il a appris à lire, écrire et compter suffisamment pour négocier. Il peut ainsi travailler dans l'atelier de son père tout en se préparant à lui succéder. François n'étudie ni la philosophie, ni la théologie, ni le droit. Ce n'est donc pas étonnant qu'il sera qualifié plus tard par certains de ses frères d'illettré. Ce qui est moins connu, c'est que François nous a laissé une trentaine d'écrits. Des prières, des bénédictions, des psaumes, mais aussi des lettres et des admonitions, et bien sûr, une règle et un testament. Ces écrits nous aident à entrer dans l'expérience mystique unique de ce petit pauvre qui prêchait par sa parole, mais surtout par son exemple. Tout au long de cette méditation, je ferai souvent référence à ses écrits. François aimait par-dessus tout la fête de la Nativité que nous nous apprêtons à célébrer. Cette fête l'émouvait aux larmes, et cette nuit de Noël, qu'il célèbre 3 ans avant sa mort, à Greccio, en 1223, est une, sinon la plus belle initiative de François. C'est celle qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Toutes les sources franciscaines s'accordent pour dire que saint François avait plus de dévotion envers la fête de la Nativité du Seigneur qu'envers toutes les autres fêtes. Nous le savons, la première fête chrétienne instituée fut le dimanche, le jour du Seigneur. Et par la suite, les chrétiens ont commencé à célébrer la fête annuelle de Pâques. Mais c'est seulement au IVe siècle, dans la ville de Rome, qu'ils ont choisi le jour du 25 décembre, date du solstice d'hiver et de la fête païenne du Sol Invictus, du soleil invaincu, pour célébrer Noël et témoigner que le vrai soleil n'est pas un astre, mais Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Bien sûr, François célébrait Pâques avec dignité, mais dans son cœur, par ses sentiments et sa dévotion personnelle, Noël occupait la première place. Il disait « Bien que dans les autres solennités le Seigneur ait opéré notre salut, pourtant, du moment où il est né, il fallait que nous soyons sauvés. » Le raisonnement de François est simple et logique. Avec son incarnation, Dieu commence son œuvre de salut en faveur de l'humanité. François célébrait Pâques avec dignité. Saint François célébrait donc Noël avec une joie ineffable, disant que c'était la fête des fêtes. Et trois sentiments jaillissaient de son cœur à cette occasion, en contemplant le petit enfant couché dans la crèche de Bethléem. Joie, tendresse et compassion. Une joie débordante pour la venue du Fils de Dieu qui assume notre condition humaine. Et d'ailleurs, pour exprimer sa joie, François composera un psaume sur lequel nous reviendrons à quelques reprises au cours de cette méditation. Tendresse, tendresse pour l'enfant Jésus qu'il aurait voulu prendre dans ses bras. Et compassion, compassion pour l'extrême pauvreté embrassée par le Fils de Dieu, pauvreté qu'il partage avec sa mère, la Vierge Marie, mais également avec Saint Joseph, bien que François ne le mentionne pas. Thomas de Celano raconte qu'il lui était impossible à François de ne pas fondre en larmes en pensant à la pauvre petite Vierge qui se trouva ce jour-là dans un si complet dénuement. Un jour, à table, un frère rappela la pauvreté de la bienheureuse Vierge et la détresse du Christ, son enfant. Sur le champ, François se leva, secoué de sanglots douloureux, et, baigné de larmes, il s'assit sur la terre nue pour manger le reste de son pain. À un autre moment, Noël tombait cette année-là un vendredi, et les frères discutaient pour savoir si l'on mangerait de la viande ou non ce jour-là. François répondit aux frères, « Frère, c'est un péché d'appeler vendredi le jour où l'enfant nous est né. Je voudrais qu'en cette fête, les murs eux-mêmes puissent manger de la viande, ou du moins qu'on les frotte de graisse, puisqu'ils ne peuvent manger. » Cette réponse originale manifeste bien le caractère entier et spontané de François. Son exagération montre aux frères que rien ne peut et ne doit empêcher la joie de Noël. Mais que s'est-il donc passé en cette nuit de Noël 1223? Je vous propose maintenant d'entendre la première partie du récit que nous en fait Thomas de Celano.
Son idéal bien arrêté, son désir le plus ardent, sa volonté la plus ferme était d'observer le Saint-Évangile, d'en observer tous les points et, en toutes circonstances, de se conformer parfaitement avec zèle, application, élan et ferveur à la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ et d'imiter ses exemples. Il évoquait ses paroles dans une méditation assidue et entretenait, par une profonde contemplation, le souvenir de ses actes. Deux sujets surtout l'empoignaient tellement qu'il pouvait à peine penser à autre chose. L'humilité manifestée par l'incarnation et l'amour manifesté par la passion. C'est pourquoi je veux conserver pieusement le souvenir de ce qu'il fit à Greccio un jour de Noël, 3 ans avant sa mort. Il y avait dans cette province un homme appelé Jean, de bonne renommée, de vie meilleure encore, et le bienheureux François l'aimait beaucoup parce que, malgré son haut lignage et ses importantes charges, il n'accordait aucune valeur à la noblesse du sang et désirait acquérir celle de l'âme. Une quinzaine de jours avant Noël, François le fit appeler comme il le faisait souvent. « Si tu veux bien, lui dit-il, célébrons à Greccio la prochaine fête du Seigneur. Pars dès maintenant et occupe-toi des préparatifs que je vais t'indiquer. » Je veux évoquer en effet le souvenir de l'enfant qui naquit à Bethléem et de tous les désagréments qu'il endura dès son enfance. Je veux le voir, de mes yeux de chair, tel qu'il était, couché dans une mangeoire et dormant sur le foin entre un bœuf et un âne. L'ami fidèle courut en toute hâte préparer au village en question ce qu'avait demandé le saint.
Nous sommes donc en 1223, dans le petit bourg de Greccio, situé à une centaine de kilomètres au nord de Rome et au sud d'Assise. Dans toute la chrétienté, c'est alors le temps de l'Avent, ce temps d'attente de la réalisation des promesses de Dieu, et surtout l'attente de sa consolation. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Une voix proclame : Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Ce texte du prophète Isaïe résonne dans la nuit froide. Mais qui apportera cette consolation aux pauvres villageois de Greccio? Dieu semble parfois si lointain. Environ 15 jours avant la fête de Noël, saint François fait appeler un noble et ami, Jean Vélita, pour faire les préparatifs de cette célébration de la nuit de Noël. Une mangeoire et du foin sont apportés. Un âne et un bœuf sont amenés dans une grotte. Des frères et les gens du village se rassemblent près de la grotte, illuminant la nuit de leurs torches et chantant des hymnes. Un prêtre est présent qui célèbre la messe sur la mangeoire comme autel. François, qui est diacre, chante l'évangile et prêche. Mais pourquoi nous retrouvons-nous à Greccio? Jean Vélita, cet ami, ce noble seigneur du bourg de Greccio, avait quelques années auparavant fait don d'une part de sa propriété, une pente abrupte en face du village, aux frères, afin qu'ils y construisent un ermitage. Greccio est un petit village de montagne qui domine la vallée de Rieti, au centre de l'Italie. Il compte aujourd'hui un peu plus de 1500 habitants. À l'époque, l'hiver à Greccio, c'était le froid et la grande solitude, l'isolement. Personne ne venait à Greccio en hiver. On y entendait seulement les arbres gémir et craquer sous le poids de la neige, et parfois aussi le hurlement des loups. François, lui, aimait le petit bourg de Greccio, où une grande part des habitants, pauvres, simples et pieux, s'étaient engagés dans une vie de pénitence. Les frères y vivaient dans un ermitage, un des plus pauvres de l'ordre, à 2 kilomètres du bourg. François disait au sujet des habitants de Greccio : Il n'y a pas une grande cité où tant de gens se soient convertis à la pénitence qu'à Greccio, qui n'est pourtant qu'un petit bourg fortifié. D'ailleurs, on raconte qu'au moment où les frères chantaient la prière du soir, les villageois sortaient sur les places pour accompagner les frères de leur chant. François séjournait volontiers au couvent de Greccio, écrit Celano, à la fois parce qu'il le voyait riche de pauvreté et parce que, dans une cellule construite au sommet d'un rocher, très à l'écart, il pouvait s'abandonner à la contemplation en toute liberté. C'est donc la pauvreté et l'isolement de ce lieu qui ont inspiré le choix de François plutôt qu'une quelconque ressemblance avec Bethléem. Avant de poursuivre notre méditation, j'aimerais apporter une petite clarification. L'événement de Greccio n'est pas une mise en scène ou une représentation théâtrale de la nativité, ni ce que nous appelons aujourd'hui une crèche vivante. Et nous verrons pourquoi plus loin. Au Moyen Âge, bien sûr, surtout entre les 11e et 14e siècles, il était courant d'assister à des représentations théâtrales ou des jeux liturgiques, parfois même animés par des troubadours, sur les places publiques, sur les parvis des cathédrales, et même dans les églises ou les abbayes. La nuit de Noël était un contexte privilégié pour une représentation du récit biblique de la nativité. À cette occasion, une petite construction pouvait être érigée, et les gens pouvaient venir y adorer le nouveau-né, souvent représenté par une statue de bois. Mais vous l'avez peut-être compris, ce n'est pas ce que fait saint François. La preuve, c'est que dans la grotte qu'il fait préparer soigneusement, il n'y a ni Vierge Marie, ni saint Joseph, et ni enfant Jésus. Alors, de quoi s'agit-il? La réponse à cette question nous est donnée par Thomas de Celano dans son introduction au récit que nous venons d'entendre. Il nous indique tout de suite la portée spirituelle en nous donnant les motivations profondes de saint François. Motivations qui seront d'ailleurs celles de toute sa vie. Je cite « Son idéal bien arrêté, son désir le plus ardent, sa volonté la plus ferme était d'observer le Saint-Évangile, d'en observer tous les points, et en toutes circonstances se conformer avec zèle, application, élan et ferveur à la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ et d'imiter ses exemples. » Une autre traduction du même texte l'exprime en ces mots. Son dessein le plus haut, son désir principal, son projet suprême était d'observer en tout et à travers tout le Saint-Évangile, de suivre parfaitement de toute sa vigilance, de tout son effort, de tout le désir de son esprit, de toute la ferveur de son cœur, l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ et d'imiter ses pas. En fait, son désir profond sera le même de sa conversion jusqu'à sa mort. Observer en tout et à travers tout le Saint-Évangile, suivre l'enseignement et les traces du Seigneur Jésus-Christ. C'est d'ailleurs ainsi que s'ouvre la règle des frères mineurs. Je vous cite le tout début, les premiers versets de notre règle. La règle et la vie de ses frères est celle-ci. Vivre en obéissance, en chasteté et sans rien en propre, et suivre l'enseignement et les traces de notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit « Si tu veux être parfait, va et vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Et viens, suis-moi. » Même à cette dernière étape de sa vie, malade, à moitié aveugle, vieilli avant l'âge, François est toujours habité du même désir qu'il a mis en route près de 20 ans plus tôt. Imiter le Christ qu'il aime de toute son ardeur. Deux événements manifestent son désir d'imiter le Christ. La nuit de Noël à Greccio, qu'il associe à la naissance du Christ, et, une année plus tard, le 29 septembre 1224, la marque des stigmates qui l'unissent à sa passion. Mais revenons à cette nuit de Noël. Quelles en sont les motivations? Voici ce que nous dit le récit de Celano. « Je veux, dit François, évoquer le souvenir de l'enfant qui naquit à Bethléem et tous les désagréments qu'il endura dès son enfance. Je veux observer en détail, autant que possible de mes yeux corporels, les désagréments de ses besoins d'enfant. Voir de ses yeux, alors qu'il est pratiquement aveugle, et faire voir les désagréments que le Christ endura dès son enfance. Une autre traduction dit « Je veux faire mémoire de cet enfant qui est né à Bethléem. » Faire mémoire. Faire mémoire est une attitude typiquement biblique qui consiste à mettre en action un événement du salut comme le faisaient les Juifs à l'occasion du repas pascal ou comme nous le faisons, nous, à chaque Eucharistie, en réponse à l'invitation de Jésus « Faites ceci en mémoire de moi. » Il ne s'agit pas simplement de se souvenir d'un événement passé avec nostalgie ou admiration, mais de nous réapproprier l'œuvre de Dieu, de faire à nouveau l'expérience de l'œuvre de Dieu qui se poursuit dans le temps et qui ravive notre confiance que Dieu continue d'agir de la même manière dans le temps présent. Le mémorial, faire mémoire, rend présent et efficace les actes et les choix du Christ. Ce ne sont plus des actes passés, mais son action aujourd'hui. En cette nuit de Noël 1223, François veut donc faire mémoire de l'enfant qui est né à Bethléem, mais surtout de la manière dont il vient à nous. Ses choix manifestés dans l'incarnation, lui qui est venu et qui vient encore à nous sous d'humbles conditions. En terminant cette première émission, faisons le point sur les personnes et les êtres que nous retrouvons dans la grotte que François fait préparer. D'abord un homme du nom de Jean, de bonne réputation mais d'une vie meilleure encore, que François aimait beaucoup parce que, malgré son haut lignage et ses importantes charges, il n'accordait aucune valeur à la noblesse du sang et désirait acquérir celle de l'âme. C'est un ami qui avait répondu à l'appel à la pénitence prêché par François. Nous retrouvons aussi dans la grotte un bœuf et un âne. La présence de l'âne et du bœuf est sans fondement dans le texte des Évangiles, mais elle est présumée dans la tradition chrétienne à partir du VIe siècle. On peut penser qu'il s'agit de l'âne qui a porté la Vierge Marie et d'un bœuf qui vivait là dans l'étable. Cette tradition s'appuie aussi sur la lecture d'Isaïe, du prophète Isaïe, chapitre 1, verset 3, qui reproche au peuple d'Israël de ne pas connaître son Dieu alors que l'âne et le bœuf connaissent leur maître. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît pas, mon peuple ne comprend pas. Et puis nous retrouvons dans la grotte du foin et une mangeoire, une nourriture, et cela pointe déjà vers une autre nourriture spirituelle. Mais sont absents de cette scène Marie, Joseph, ainsi que l'enfant Jésus. Pourquoi? D'une part, parce que, je le disais tout à l'heure, il ne s'agit pas d'une crèche vivante, mais aussi parce que ces personnages, du moins Marie et l'enfant Jésus, dans la pensée de François, seront présents autrement. Nous pouvons imaginer que Marie sera présente à travers les gens de Greccio et les frères, car, écrit François, « Nous sommes ses mères, les mères du Christ, lorsque nous le portons dans notre cœur et dans notre corps par l'amour, par la loyauté et la pureté de notre conscience, et que nous l'enfantons par nos propres actions, qui doivent être pour autrui une lumière et un exemple. » Quant à l'enfant Jésus, François prévoit qu'il sera présent dans la crèche, mais d'une autre manière, et qu'il pourra le contempler de ses yeux de chair. C'est ce que nous méditerons ensemble dans la prochaine émission.
À déroulement du livre, vous venez d'entendre le frère Louis Cinq-Mars, capucin, dans sa série intitulée « Voir et faire voir l'enfant de Bethléem ».